Claude Heras, de l'association Eure-et-Loire Nature, est un ornithologue passionné dont le recueil méticuleux de données sur le terrain permet de connaître sur le long terme les différentes espèces d'oiseaux présentes dans le Perche eurélien et l'évolution de leur population. Des données d'autant plus précieuses qu'elles sont rares pour notre département. Claude reviendra d'ailleurs certainement à ce micro parler de cet infatigable travail d'observation et de compilation, mais aujourd'hui, il a décidé de faire de nous ses apprentis. Le mois dernier, je vous parlais de l'opération « Confiner mais aux aguets » lancée par la Ligue de protection des oiseaux, qui vous invite à compter les oiseaux de votre jardin ou de votre rue pour ceux qui regardent par la fenêtre. Peut-être vous êtes-vous dit que ça n'était pas pour vous et que vous seriez bien en peine de distinguer un moineau d'un pigeon. Claude va vous prouver qu'avec un peu de patience, d'application et d'implication, vous pouvez devenir un ornithologue débutant de talent. Comme le dit l'adage, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Claude Heras, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Alors, quel est le matériel nécessaire pour devenir un ornithologue débutant ?
Le matériel et autres conditions. Une condition pour progresser dans l'observation des oiseaux et de la détermination, faire ce qu'on peut appeler de l'ornithologie ou plus précisément l'équivalent de birdwatching chez les anglo-saxons, c'est l'observation des oiseaux. Parce que l'ornithologie, en fait, est une science qui répond à des critères scientifiques particuliers. Mais abordons plutôt la façon dont on peut s'intéresser aux oiseaux et qui peut aborder sur des études à la suite. Hein. Alors, la première, c'est d'avoir envie d'observer les oiseaux, d'aimer la nature et d'être curieux. Et d'être curieux de se dire, ces oiseaux qui chantent autour de moi ou que je vois, j'aimerais bien les reconnaître. Alors, que faut-il ? Donc, cette curiosité, en premier, je dis bien. Ensuite, eh bien, moi, personnellement, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, parce qu'à 18 ans que j'ai pu obtenir une paire de jumelles digne de ce nom, c'est-à-dire d'une qualité suffisante, parce qu'après, il y a des longues vues. Ça, c'est sur les étangs quand les distances sont plus grandes, mais autrement, chez soi, une paire de jumelles suffit. Et un bon guide d'identification de France et d'Europe.
Voilà, j'allais vous dire, qu'est-ce qui fait un bon guide pour, encore une fois, pour un ornithologue débutant ?
Le mieux est de démarrer avec un guide qui soit assez exhaustif sur toutes les espèces observables en France, en Europe et en France en particulier. Plutôt que, vous savez, des oiseaux de mes jardins ou les oiseaux du bord de mer ou comme ça,
ouais.
C'est à peu près le même prix, mais il vaut mieux avoir une vision globale de tous les oiseaux observables dans notre région ou dans notre pays. Pour être certain de son identification, il vaut mieux avoir un guide complet qu'un guide sur lequel il y aurait des lacunes, où on ne trouverait pas l'espèce observée.
Et alors, comment s'y prend-on pour observer des oiseaux ? Est-ce qu'on peut commencer, par exemple, par son voisinage ?
C'est des oiseaux qu'on a près de chez soi. Mmh. Chez soi, dans son jardin, actuellement, je ne sais pas, il y a une bonne trentaine d'oiseaux familiers autour de votre maison ou de votre jardin. Surtout s'il y a quelques arbres à côté ou pas loin ou un petit bosquet ou comme ça, il y a bien une vingtaine, une trentaine d'oiseaux observables. Et donc, pour progresser, il faut s'amuser à identifier les espèces. Je crois que ça passe par l'identification. Donc, avoir également un petit carnet où on note les espèces observées. Ou dans le guide, il y a des pages spécifiques où on peut cocher les espèces qu'on a pu observer. Et ainsi progresser de petit à petit, et en faisant un effort personnel. Je conseille, moi, d'aller accompagner des gens aguerris sur l'observation des oiseaux ou à travers des associations telles Eure-et-Loire Nature, par exemple, ou la LPO, ou d'autres associations de ce type, parce que ça commence quand même par un effort personnel. Donc, il y a l'observation, mais il est intéressant très tôt en même temps qu'on observe un oiseau dans ses jumelles, de dresser l'oreille et d'écouter ses cris, ses chants, parce que c'est la meilleure façon de les mémoriser. Si on s'amuse à passer un CD ou comme ça, c'est infernal. On ne fait pas la relation entre l'oiseau et son chant, ou plus difficilement, pour bien mémoriser, on tend l'oreille en même temps qu'on observe un oiseau. Pour en revenir à ce que on peut, pour commencer, on peut le faire de son jardin, c'est sûr. Et alors, il y a une période particulière aussi où on peut les voir plus facilement, c'est la mangeoire. Chez moi, je suis dans le Perche, je suis entouré de quelques arbres, J'ai jusqu'à, j'ai dénombré jusqu'à 11 espèces différentes qui venaient à la mangeoire. C'est assez extraordinaire. Il y a des espèces qui sont assez farouches ou qui vivent en haut de la cime des arbres. Je pense au gros bec casse-noyau, comme ça, qui est difficile de voir. Par contre, on le voit à la mangeoire. Et des espèces hivernantes, comme le tarin des aulnes, comme certaines grives qui ne sont là que l'hiver. Et donc, c'est une bonne période et c'est un bon moyen de se forger à l'identification des oiseaux que de le faire depuis chez soi.
Alors justement, vous parlez d'identification. Quelles sont les principales clés d'identification quand on débute ? À quoi va-t-on faire attention pour pouvoir identifier une espèce d'oiseau ?
Eh bien, on s'aperçoit vite et à travers le guide, en l'étudiant, on voit que les mâles et les femelles sont différentes. Il y a un dimorphisme, ça s'appelle le dimorphisme sexuel. 90% à peu près des espèces ont un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle en général est plus coloré, plus beau, et d'ailleurs pour des raisons de reproduction, on va au moment des paranuptiales, et la femelle est beaucoup plus terne et discrète parce que c'est elle qui va élever les enfants, qui va être au nid et qui aura un impératif de discrétion. Alors que le mâle, lui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il chante, le mâle au printemps, c'est lui qui chante, il chante pour marquer son territoire, parce que en période de nidification, il y a un territoire, donc on chante pour bien marquer son territoire, pour éloigner donc les mâles, et puis pour attirer les femelles et plaire aux femelles. La femelle est très sensible au chant du mâle, et d'ailleurs à sa qualité. En début de saison, une anecdote par exemple, le pinson des arbres, qui est une espèce très commune, en début de saison, il chante plutôt mal. Une oreille habituée se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Il chante bien mal. » Eh bien, c'est parce qu'il s'entraîne pour retrouver le chant adéquat, le chant parfait, qui va plaire à la femelle. La femelle va être sensible et va choisir un mâle qui a un beau chant, un beau plumage, un beau chant. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Le chant n'est pas inné, il est appris pour dans bien des cas. Il est rarement inné. Les jeunes pinsons apprennent à chanter. Et ils s'entraînent entre eux jusqu'au moment où le chant devient à peu près parfait et où les couples se forment.
Alors on va avoir le plumage, donc le chant. Est-ce qu'il faut aussi, j'imagine, faire attention à la taille ?
Oui, il y a la taille. Les becs fins sont plutôt des insectivores. Les becs épais sont plutôt des granivores. Les becs puissants comme les corbeaux, ce sont des fouilleurs. Il y a des indices comme ça que l'on repère. Et puis l'allure générale aussi. Vous savez, entre deux espèces d'oiseaux, il y a plus de différence qu'entre, chez les humains, un Inuit et un Zoulou d'Afrique du Sud. Les différences sont énormes. Chaque espèce a une biologie bien à part. Certains sont grégaires, d'autres vivent en couple, unis pour la vie, dans bien des cas. Certains, donc dans les grégaires, ont une hiérarchisation particulière, avec des codes particuliers. La communication est très différente d'une espèce à l'autre. C'est toutes ces choses que l'on découvre petit à petit en les observant. Mais pour en revenir au début de notre conversation, pour s'y habituer, donc il faut, pour s'y habituer, ou plutôt pour progresser en la matière, un bon guide, des jumelles, et on progresse avec des espèces qu'on a près de chez soi, et petit à petit on progresse et on élargit son champ, et après on peut entrer dans une association d'ornithologues qui, alors là, vous permettent de progresser très vite. Mais il faut quand même un effort personnel au départ, parce que sans ça c'est beaucoup moins efficace que de faire appel à un professionnel qui, lui, au moindre comportement, au moindre milieu, détermine souvent les choses, au moindre cri les détermine, mais ça demande une pratique, une expérience assez longue, mais on peut, vous savez, quelqu'un de passionné va progresser 10 fois plus vite que quelqu'un qui fait ça véritablement en dilettante, quoi.
Alors quelles sont les espèces avec lesquelles on peut se familiariser peut-être le plus facilement pour débuter?
Alors on a, je ne sais pas, on connaît tous le rouge-gorge.
Oui.
On connaît le merle, on connaît les mésanges. Alors dans les mésanges, il faut se méfier. On sait bien qu'il y a la petite bleue. Il y a la mésange charbonnière avec un grand plastron noir. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres et petit à petit, on les différencie comme ça. Il y a la mésange huppée. Si on a la chance d'avoir quelques pinèdes auprès de chez soi, la mésange huppée, on peut la voir. On peut la voir à la mangeoire. La mésange nodette. Il y a la mésange à longue queue. Elle est toute petite, elle vit l'hiver par petits groupes familiaux ou un peu plus que vous avec d'autres mésanges, mais on la voit dans ce jardin régulièrement. Il y a la citelle tourchepeau qui fait 8-8-8-8, on la reconnaît à son cri. Il y a le moineau domestique, il y a un oiseau qui est très très commun. C'est Alexander Mouchet, je pense qu'on l'appelle le traîne-buisson. Il faut avoir l'œil exercé pour le différencier du moineau domestique. Avec un peu de pratique, on le différencie, et notamment au moment du chant. Il a un chant très élaboré, très particulier, il chante souvent, et ça permet de bien le regarder grâce à son chant et de se dire, oui, effectivement, c'est pas le moineau habituel. Il y a le pinson, bien évidemment, le bouvreuil est plus rare, est devenu bien plus rare. Il y a le verdier qui est commun, il y a le chardonneret. Oui. Alors le chardonneret, on peut le voir l'hiver et au mangeoir.
Alors Claude Heras, cette période de confinement, c'est un prétexte formidable pour apprendre à voir et à écouter.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, le confinement, il profite beaucoup plus aux humains, je dirais, qu'aux oiseaux. Même si les oiseaux profitent quand même d'une moindre activité humaine, moins de bruit, etc., mais ce que j'entends communément depuis que nous sommes en confinement, c'est des gens dire « Ah, c'est incroyable le silence que nous avons, surtout en milieu urbain. Hein. Mais c'est incroyable le silence, enfin on entend les oiseaux. » Donc effectivement, c'est une période, et c'est une période où on prend conscience que le chant sonore, les oiseaux, le silence est un faux silence. Ce que nous appelons le silence, en fait, c'est le chant des oiseaux qui prime dans ce nouveau silence. À la place des moteurs, des voitures, etc., ou des bruits des activités humaines, on entend beaucoup plus facilement et on prend conscience que les oiseaux sont là, et bien là, et c'est une bonne période pour s'y intéresser. Le confinement sur les oiseaux, on peut penser qu'ils vont avoir une saison de reproduction peut-être un peu plus favorable, parce qu'ils occupent des espaces nouveaux, peut-être un peu plus larges du fait des moindres activités humaines, et qu'il y aura une bonne saison de reproduction. Mais ça n'est pas encore évident et ce sera difficile à prouver. Le confinement, effectivement, c'est surtout les hommes qui sont sensibles pour ce qui concerne les oiseaux, encore une fois.
Alors pour finir cet entretien, Claude Heras, vous qui avez débuté en ornithologie, vous nous l'avez rappelé, à l'âge de 18 ans, vous qui avez passé votre vie à observer les oiseaux, qu'est-ce qui vous attire tant dans ce rapport avec eux, dans cette discipline ?
Eh bien, j'ai un intérêt large pour la biologie ou la nature. Choisir pour s'y intéresser le monde des oiseaux, c'est une classe animale tout à fait sympathique, ils sont beaux, ils sont présents. Et alors, il faut savoir que du fait de leur capacité de vol, ils sont observables sur toute la planète. Ils occupent toute la planète. Ensuite, ils vivent autour de nous. Un entomologue, par exemple, est obligé d'avoir une loupe, c'est beaucoup plus compliqué. Les oiseaux sont omniprésents. Ils sont attachants, ils sont beaux, ils sont intelligents. N'oublions pas que les corvidés et les psittacidés, c'est-à-dire les perroquets, valent les grands singes en termes d'intelligence, du moins tout ce que l'on a pu essayer en la matière pour mesurer leur intelligence par rapport à la nôtre. C'est très subjectif, mais ils sont très intelligents, ils ont des comportements vraiment étonnants. Si vous voulez, leur étude nous amène à comprendre mieux la nature et ça peut être élargi ensuite à d'autres espèces et à la façon dont la nature se débrouille. Pense par exemple aux stratégies animales de reproduction. Il y a des oiseaux comme les mésanges qui ont 12 petits. S'il n'y avait pas la prédation, les prédateurs par exemple n'ont qu'un petit tous les 7 ans pour certains. L'apprentissage dure chez eux 2-3 ans avant qu'ils soient matures sexuellement et le prédateur va avoir un espace vital ou un territoire qui va se compter en dizaines d'hectares, alors que la mésange bleue a un territoire très très limité, mais il a donc une stratégie de reproduction tout à fait différente. Voilà un des aspects de l'étude des oiseaux que l'on peut avoir après cette forger une connaissance en la matière. Et la connaissance, ce que je vous disais, c'est de commencer par son jardin de manière progressive. Mais c'est tout, on est pris au jeu et on est passionné par la chose. Et l'étude des oiseaux, l'intérêt pour les oiseaux, nous amène à nous intéresser à la nature et à son mode de fonctionnement et de voir que tout est lié. Et le merveilleux qu'il y a à observer la nature, et le merveilleux de la nature. Le monde dans lequel nous sommes est merveilleux. Et si j'ai commencé si jeune, c'est parce que je me suis inquiété de savoir dans quel monde on vivait, qui est merveilleux avec un grand M. Il n'y a pas besoin de chercher le merveilleux ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux en permanence sur ce qui nous entoure et on s'aperçoit qu'on est dans un monde merveilleux et qui pose questions et qui est tout à fait intéressant.
Eh bien, merci beaucoup d'inviter nos auditeurs à le découvrir. Merci Claude Heras, vous reviendrez sans doute à ce micro pour nous parler des oiseaux, mais pas seulement, parce qu'effectivement vous vous intéressez à beaucoup d'autres familles. Merci beaucoup à vous, à bientôt.
Je vous en prie, avec plaisir.